Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1911, Le Porche du mystère de la deuxième vertu est un long poème lyrique de Charles Péguy, inscrit dans la suite de ses mystères chrétiens. La deuxième vertu désigne l'espérance, placée entre la foi et la charité dans la tradition théologale. L'œuvre ne propose ni traité doctrinal ni récit, suivi elle fait entendre une méditation poétique, souvent portée par une parole divine. Sur la fragilité de l'espérance, et sur sa puissance dans le temps humain. Péguy unit langage religieux, attention aux gestes ordinaires, images de l'enfance et réflexions sur l'histoire. Son vers ample, répétitif et scandé, transforme une idée spirituelle en expérience de lecture, le lecteur est invité à demeurer dans le mouvement de l'attente plutôt qu'à recevoir une conclusion. Abstraite. Par sa forme singulière, le livre explore une foi incarnée, confrontée à la souffrance, au travail des jours et à la possibilité toujours précaire d'un recommencement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'espérance, comme la plus fragile des trois vertus théologales, le centre du poème est l'espérance. Appelée deuxième vertu parce qu'elle vient après la foi et avant la charité. Péguy lui donne une place paradoxale, elle semble la plus petite, la moins assurée et la plus exposée des vertus, mais elle est aussi celle qui entraîne les autres vers l'avenir. La foi peut paraître établie dans l'adhésion, la charité dans l'acte de donner. L'espérance, elle, ne possède pas encore ce qu'elle attend. Elle engage donc une confiance qui demeure ouverte à l'incertitude. Cette caractérisation évite de réduire l'espérance à l'optimisme. Chez Péguy, elle ne consiste pas à nier le mal, la fatigue ou l'injustice du monde. Elle maintient la possibilité de bien à venir malgré leur présence. La voix divine qui structure le texte renverse ainsi les hiérarchies spontanées, ce qui paraît menu et enfantin devient le signe le plus étonnant de la persévérance humaine. L'enjeu est théologique, mais aussi moral. Espérer signifie ne pas enfermer le présent dans son état actuel, ni juger une personne ou une société à partir de leur seule défaite. La vertu possède alors une fonction temporelle précise, elle rend l'avenir pensable et habitable sans promettre qu'il sera facile. Deuxièmement, la figure de la petite fille est la force d'une confiance non triomphante, Péguy donne à l'espérance une figure d'enfant. Souvent comprise comme celle d'une petite fille avançant entre ses deux sœurs que sont la foi et la charité. Cette image n'est pas décorative. Elle permet de penser une force qui ne procède ni de la domination, ni de la certitude acquise. L'enfant dépend, marche, apprend et regarde devant lui, ses traits rendent sensible une vertu qui existe dans l'élan plutôt que dans la possession. La fragilité apparente de la petite figure souligne que l'espérance peut être négligée ou confondue avec une simple disposition sentimentale. Pourtant, sa marche met les autres vertus en mouvement. La foi sans espérance risquerait de se figer dans l'affirmation. La charité sans espérance pourrait se limiter au soulagement immédiat. En les orientant vers ce qui n'est pas encore, l'espérance leur donne une direction historique et concrète. Cette poétique de l'enfance a également une portée spirituelle. Elle refuse une conception héroïque de la sainteté réservée aux consciences exceptionnellement fortes. L'attente confiante, le désir d'un jour meilleur et la fidélité aux gestes modestes deviennent des lieux authentiques de vie religieuse. Le poème fait donc de la vulnérabilité assumer une ressource, non une faiblesse à éliminer. Troisièmement, le temps quotidien comme lieu du recommencement spirituel, le rapport au temps, constitue une dimension essentielle de l'œuvre. Péguy ne situe pas l'espérance dans un avenir vague, séparé du présent. Il la rattache aux jours qui reviennent, au réveil, au matin et à l'attente d'une journée nouvelle. Ces motifs donnent à la temporalité une valeur spirituelle. Chaque jour peut devenir un commencement, non parce que le passé serait effacé, mais parce que l'existence n'est jamais définitivement close. Cette attention au quotidien distingue le poème d'une consolation purement abstraite. L'espérance se mesure à la capacité de reprendre le cours de la vie, de travailler, d'aimer et de patienter alors même que les conditions présentes demeurent imparfaites. Le rythme répétitif de l'écriture accompagne cette idée, les reprises ne produisent pas une immobilité, elles font éprouver la continuité nécessaire à toute confiance durable. Elles montrent qu'attendre est une pratique, avec ses retours, ses lenteurs et ses recommencements. Péguy donne ainsi une portée religieuse aux temps ordinaires. L'avenir n'est pas seulement la fin des temps ou une promesse éloignée. Il s'annonce dans la fraîcheur possible du jour qui vient. Cette vision permet de lire le poème comme une réflexion sur la patience active, attentive aux signes modestes, plutôt qu'aux seules ruptures spectaculaires. Quatrièmement, une parole divine qui rapproche théologie et expérience humaine, l'originalité du Porche tient aussi à son dispositif d'énonciation. Péguy fait largement entendre une parole attribuée à Dieu, mais cette parole ne prend pas la forme impersonnelle d'un exposé dogmatique. Elle exprime l'étonnement, la tendresse, et l'attention portée aux êtres humains. Ce choix transforme les vertus théologales en réalité vécue, elles ne sont pas seulement des catégories de la tradition chrétienne, elles apparaissent dans la marche. Les liens familiaux, l'effort quotidien et le passage des nuits. Le regard divin ne supprime donc pas l'épaisseur du monde. Il l'éclaire depuis une proximité inhabituelle. Cette voie donne une cohérence à une œuvre qui procède davantage par méditation et variation que par démonstration linéaire. Elle permet à Peggy de tenir ensemble la grandeur de Dieu et la petitesse des existences sans réduire l'une à l'autre. Le lecteur n'est pas invité à maîtriser un système théologique, mais à considérer autrement les expériences ordinaires de fidélité et d'attente. En ce sens, le livre relève d'une poésie religieuse incarnée. Sa difficulté éventuelle vient de son ampleur et de ses détours. Mais cette forme correspond à son sujet, l'espérance ne se laisse pas enfermer dans une définition rapide, car elle se déploie au cœur d'une relation continue entre le temps humain et la promesse divine. En dernier lieu, la répétition, l'oralité et les liens de la main comme langage poétique, le style de Peggy est indissociable de la pensée du livre. Les répétitions, les parallélismes et les longues périodes donnent au texte une allure de prière, de litanie et de paroles proférées. Loin d'être de simples ornements, ces procédés obligent le lecteur à ralentir et à revenir sur les mêmes mots. Ils font sentir que les réalités spirituelles demandent à être reprises, reprises encore, plutôt qu'énoncées une fois pour toutes. La langue avance par vagues, elle insiste, nuance, élargit une image et construit une cadence qui porte la méditation. Les images de mains jointes ou de mains qui se tiennent participent à cette logique. Elles matérialisent la relation entre les vertus, mais aussi la solidarité et la dépendance qui traversent l'expérience humaine. Une main tenue ne signifie pas la disparition de la fragilité. Elle indique qu'une marche devient possible grâce à un lien. Cette dimension corporelle préserve le poème d'une spiritualité désincarnée. La force de l'œuvre réside précisément dans cette union entre abstraction théologique et perception concrète. Sa lecture gagne à être menée lentement, parfois à voix haute, afin d'entendre sa construction rythmique. Le texte demande une disponibilité particulière, mais il restitue en échange la densité affective et intellectuelle d'une parole qui pense par le souffle autant que par le concept. En conclusion, le porche du mystère de la deuxième vertu s'adresse d'abord aux lecteurs de poésie française du début du XXe siècle, aux lecteurs de Peggy et à ceux qui souhaitent rencontrer une œuvre chrétienne sans la confondre avec un manuel de spiritualité. Il intéressera également les lecteurs attentifs aux questions de temps, de confiance et de persévérance, y compris lorsqu'ils ne partagent pas le cadre religieux de l'auteur. Son bénéfice intellectuel tient à la précision avec laquelle il distingue l'espérance de la simple satisfaction ou de l'assurance. Son bénéfice de lecture tient à une expérience de l'angle rythme. Les retours et les images font éprouver le mouvement même d'une attente qui continue malgré la vulnérabilité. L'ouvrage exige une lecture patiente, car son ampleur méditative et ses répétitions peuvent dérouter un lecteur habitué aux formes brèves ou argumentatives. Cette exigence est toutefois constitutive de sa valeur. À la différence de nombreux recueils lyriques centrés sur la confession personnelle, Peggy élabore une voix à la fois théologique, familière et collective. À la différence aussi d'un discours religieux abstrait, il ancre les vertus dans les jours ordinaires, la marche, l'enfance et les liens humains. Le livre se distingue ainsi par son alliance rare de ferveur chrétienne, de réflexion sur l'histoire et d'invention prosodique. Il demeure une porte d'entrée majeure dans la poésie spirituelle de Peggy, où l'avenir se pense moins comme garantie que comme fidélité renouvelée au possible. Si vous souhaitez soutenir Charles Peggy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.